chapitre 9. Quatre jours par semaine, Myriam travaillait au bateau Lyre, une librairie flottante sur le canal, près du marché de Broadway. La boutique, qui proposait une sélection de livres neufs et d'occasion, flirtait avec la faillite depuis quelques années déjà. Nicolas, le propriétaire, avait dû dernièrement faire appel à la générosité des hipsters, pour reprendre ses mots, afin de maintenir son affaire à flot. Au sens littéral, il avait organisé une collecte de fonds en ligne pour faire réparer la coque de la péniche qui prenait l'eau. Myriam avait surtout un poste administratif. Elle s'occupait des comptes, du courrier, du réassort et du ménage. Elle n'avait plus le droit de servir les clients. Trop d'incidents diplomatiques, ni de rédiger les avis du libraire épinglé sur certains ouvrages, ses critiques étant jugées trop radicales. Et puis, Myriam était quelqu'un de rebutant. Nicolas ne s'était jamais permis de le formuler ainsi, mais l'intéressé savait très bien qu'elle n'était pas agréable à regarder, qu'elle ne donnait pas envie qu'on lui parle. Elle ne savait pas ce qu'était le contraire du charisme, mais elle en avait à revendre. Elle était consciente de tout cela et avait appris à vivre avec. Quel autre choix avait-elle, de toute façon? Elle ne comptait pas se prendre pour ce qu'elle n'était pas. Les choses étaient ainsi, autant assumer sa différence. Le mercredi, Nicolas avait rendez-vous chez son psy. Alors c'était Myriam qui se chargeait de l'ouverture. Elle n'était jamais en retard, même pas d'une minute. Elle ne pouvait pas se le permettre. Ce matin-là, lorsqu'elle passa sous le pont de Cat and Mutton à 8h45 exactement, elle eut la surprise de voir qu'un client attendait déjà, le nez collé à une vitre pour regarder à l'intérieur, les deux mains de part et d'autre du visage. « Un touriste », songea-t-elle. Mais l'homme se redressa et Myriam se figea en reconnaissant Theo Myerson. La décharge d'adrénaline passée, elle se ressaisit. Le vent avait tourné. Après une grande inspiration, elle se dressa de toute la hauteur de son 1m58 et se dirigea d'un pas assuré vers la péniche. « Je peux vous aider ?» Il la reconnut et son visage s'assombrit. « Oui, je crois. » Par un malheureux hasard, tous les passants semblaient avoir momentanément disparu du chemin, les laissant seuls. Derrière elle, le pont, devant elle, la péniche, et Theo Myerson qui lui bloquait le passage. « Nous ne sommes pas encore ouverts, » dit-elle, et elle essaya de le contourner. « Il faudra repasser à partir de 9h. » Mais Myerson se décala pour continuer de lui barrer la route. « Je ne suis pas là pour voir la librairie, » gronda-t-il. « Je suis là pour vous mettre en garde. Fichez-moi la paix. Et ne vous approchez pas de ma famille. » Myriam enfonça ses mains tremblantes dans ses poches. « Je ne me suis jamais approchée de votre famille, à moins que... « Vous voulez parler de votre neveu ?» demanda-t-elle en le regardant enfin droit dans les yeux. « Quelle tragédie !» Elle attrapa la clé de la boutique dans son sac à main et d'un coup de coude, écarta l'intrus pour rejoindre la porte. « Je suis un témoin, vous savez. La police est venue me voir pour me poser tout un tas de questions auxquelles j'ai répondu. » Et elle fit de nouveau face à Théo avec un sourire pincé. « Vous auriez préféré que je ne dise rien ?»« Vous savez quoi ?» ajouta-t-elle en sortant son portable. « Je peux encore leur téléphoner. J'ai enregistré le numéro de l'inspecteur. Il m'a dit que je devais l'appeler si jamais je me souvenais d'un détail ou si je remarquais quelque chose d'anormal. Vous voulez que je l'appelle maintenant? Que je lui explique que vous m'avez rendu visite ?» Myriam vit un voile de consternation passer sur le visage de Myerson et eut la surprise de ressentir un intense plaisir. « Monsieur Myerson ?» dit-elle encore. « Alors c'est ça, » songea Myriam. C'est ça, le pouvoir. Quand Myriam rentra du travail ce soir-là, avant de se faire une tasse de thé ou même de se laver les mains, elle attrapa sa petite boîte en bois sur l'étagère au-dessus du poêle, celle dans laquelle elle gardait ses petits souvenirs, et la posa sur la table de la cuisine. Elle l'ouvrit et examina son contenu. Un rituel qu'elle pratiquait de temps à autre pour calmer son anxiété, pour s'apaiser, organiser ses pensées, et se concentrer sur ce qui était vraiment important pour elle. Myriam était une excentrique et elle le savait. Elle ne se faisait pas d'illusions sur ce qu'elle était ou la façon dont on la considérait. Quand ils regardaient Myriam, les gens voyaient une grosse femme entre deux âges, sans argent et sans mari, sans une miette de pouvoir. Il voyait une laissée pour compte qui habitait sur un bateau, portait des vêtements dégotés en friperie et se coupait les cheveux elle-même. Certains l'oubliaient instantanément, mais d'autres s'imaginaient qu'il pouvait lui prendre ce qu'il voulait sans qu'elle puisse se défendre. La boîte ouverte devant elle, Myriam en sortit une feuille de papier format A4 pliée en quatre. Elle la déplia, l'étala sur la table et lissa l'entête du plat de la main. Elle en relut les mots, alors qu'elle l'avait déjà fait si souvent qu'elle aurait pu réciter la missive de mémoire, ou du moins les passages les plus marquants. « Madame Lewis, je vous écris pour le compte du département juridique de Harris Mackey, la maison d'édition de Theo Myerson, en réponse à votre courrier du 4 février. Je m'exprime par la présente au nom de l'entreprise, mais aussi de M. Myerson lui-même, qui a approuvé le contenu de cette lettre. Avant toute chose, nous vous informons que M. Myerson nie fermement les allégations de violation du droit d'auteur de votre courrier. Ce sont des accusations sans aucun fondement. Vous prétendez que « Celle qui s'est enfuie », le roman écrit par M. Myerson et publié sous le pseudonyme de Caroline McFarlane, copie des thèmes et des passages fondamentaux de l'intrigue de vos mémoires. C'est une vision erronée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, afin de retenir le qualificatif légal de violation du droit d'auteur, il vous revient d'établir un lien de causalité entre votre ouvrage et celui que vous qualifiez de plagiat. Vous devez ainsi démontrer que M. Myerson s'est servi de vos mémoires pour écrire celle qui s'est enfuie. M. Myerson reconnaît que vous lui avez demandé de lire votre manuscrit et qu'il a généreusement accepté, en dépit d'un emploi du temps fort chargé. Comme il vous l'a expliqué le jour où vous êtes venu sonner chez lui le 2 décembre, M. Myerson avait rangé ce manuscrit dans sa valise quand il a pris l'avion pour Carthagène des Indes afin de se rendre au Hay Festival. Hélas, British Airways a perdu les bagages de M. Myerson au cours de ce vol et n'est pas parvenu à les retrouver. M. Myerson n'a donc pas pu consulter vos écrits. Les similitudes que vous pensez avoir identifiées entre celle qui s'est enfuie et vos mémoires ne sont que de vagues idées et des thèmes génériques. Il ne nous apparaît ni légitime ni nécessaire de répondre point par point à chacune des comparaisons ténues que vous cherchez à lister. Vous portez de graves accusations diffamatoires à l'encontre de M. Myerson. Si vous teniez à poursuivre cette affaire en justice, en dépit de son caractère parfaitement déraisonnable, M. Myerson n'hésiterait pas à se défendre fermement contre ces allégations. Il vous réclamerait ainsi le remboursement de tous ses frais de justice et, à la lumière des arguments énoncés ci-dessus, nous ne doutons pas un instant qu'il obtienne gain de cause. Et voilà, c'était écrit noir sur blanc. Si on oubliait les insultes, les accusations nauséabondes, le rejet en bloc de ces allégations sans aucun fondement, erronées, ténue, diffamatoire, déraisonnable, leur argument principal résidait dans cette dernière phrase. « Nous avons l'argent, nous avons le pouvoir. Et vous, vous n'avez rien. » Les mains tremblantes, Myriam replia la lettre et la rangea au fond de la boîte, puis elle sortit le petit carnet noir dans lequel elle consignait toutes les allées et venues qu'elle observait. Cela faisait 6 ans qu'elle vivait là, sur le canal, et elle avait vite compris qu'il fallait se montrer vigilant. Car on trouvait ici-bas tous les représentants de l'espèce humaine. Des gens généreux, travailleurs, bons et respectables, mais aussi des ivrognes, des drogués, des voleurs et autres rebuts de la société. Il était important d'ouvrir l'œil, de rester sur le qui-vive et de se méfier des prédateurs aux aguets. Ça, Myriam le savait mieux que n'importe qui. Alors elle prenait des notes. Par exemple, elle avait noté l'heure à laquelle Laura la folle, la fille de la laverie, était apparue sur le chemin au bras de Daniel Sutherland, vendredi soir. Elle avait aussi noté la visite de Carla Myerson, la tante du garçon, avec sa jolie coupe de cheveux, son manteau élégant et ses dents bien droites. C'était mercredi dernier, voilà, 2 jours avant la mort de Daniel. Elle avait une bouteille de vin à la main. Après cela, Myriam prit la clé, celle de Laura la folle, celle qu'elle avait ramassée auprès du cadavre sur le bateau, et dont le métal était encore collant de sang. Elle la fit tourner entre ses doigts, toucha ses angles. Myriam avait le pressentiment que, quoi que Laura ait pu faire, elle devait la protéger. Car elle aussi faisait partie des laissés pour compte, non? Certes, elle était jolie, mince, naïve, mais elle était pauvre et elle avait des problèmes. et il y avait quelque chose d'anormal chez elle. Elle boitait, et elle avait visiblement un souci mental. Laura n'était pas nette. Or, les gens n'hésitaient pas à profiter des petites jeunes filles démunies. Myriam le savait bien. Elle en avait fait l'expérience elle-même. Mais le pouvoir n'est pas éternel, n'est-ce pas? Parfois, alors qu'on s'y attend le moins, le vent tourne et tout change. Et si, contrairement à ce qu'elle avait écrit dans son carnet, Myriam n'avait pas vu Laura du tout? Et si, comme elle l'avait expliqué à la police, elle n'avait vu que Carla Meyerson en compagnie de Daniel Sutherland? D'ailleurs, maintenant qu'elle y réfléchissait, peut-être qu'elle avait vu Carla Meyerson plus d'une fois. L'inspecteur lui avait recommandé de le contacter si elle se souvenait d'autre chose, non? Si elle se rappelait le moindre détail qui pouvait s'avérer important. Et si... Mais oui, voilà, ça lui revenait. Elle avait entendu quelque chose, des éclats de voix. Ce soir-là, elle avait cru qu'il faisait la fête, mais avec le recul, peut-être qu'elle avait eu tort. Peut-être que c'était une dispute qu'elle avait entendue. Myriam se prépara une tasse de thé et un bain de pied, puis elle entreprit d'avaler méthodiquement la moitié d'un paquet de biscuits au blé complet, tout en réfléchissant à ce qu'elle devait dire à l'inspecteur. Par exemple, devait-elle mentionner son entrevue avec Theo Meyerson ce matin-là? Ou valait-il mieux garder cette carte dans sa manche au cas où? Elle avait bien conscience qu'elle devait se montrer extrêmement prudente pour parvenir à ses fins. Son nouveau pouvoir ne devait pas lui monter à la tête. Elle composa le numéro de l'inspecteur et écouta le message du répondeur. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Myriam Lewis à l'appareil. Vous m'avez dit de vous appeler si je me souvenais d'autre chose, eh bien, c'est juste que... J'ai repensé à la femme que j'ai vue, vous savez, la femme plus âgée. En fait, c'est le vendredi soir que je l'ai vue. Voyez-vous, je croyais que c'était le jeudi parce que je revenais du travail quand je l'ai croisée. Elle avait une bouteille de vin avec elle. Enfin bon, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, je sais que je revenais de la librairie. Sauf que je ne suis pas allée travailler jeudi dernier, parce que j'avais une petite gastro. Ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais, car en temps normal, j'ai une santé de cheval. Mais bref, je ne me sentais pas très bien jeudi, et j'ai donc demandé à décaler ma journée au lendemain, au vendredi. Myriam raccrocha. Elle se pencha pour prendre un autre biscuit, puis se laissa aller contre son dossier et posa les jambes sur le banc. Quelle satisfaction d'avoir une emprise sur Meyerson! Un instant, elle se prit à imaginer le grand écrivain, debout dans son bureau, le téléphone à la main. Un appel de l'inspecteur, sûrement, qui lui annonçait qu'on allait faire subir un interrogatoire à sa Carla chérie. Elle pouvait presque voir la panique sur son visage. Comment allait-il supporter une telle épreuve? Et la presse qui allait s'emparer de l'histoire? Cela lui apprendrait à prendre ce qui ne lui appartenait pas. À traiter Myriam comme si elle n'était rien de plus qu'une chose. Un sujet à exploiter dans son livre avant de s'en désintéresser totalement. Et si Carla souffrait également, eh bien ce n'était pas l'idéal, mais si les ennemis de mes ennemis sont mes amis, parfois, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. On n'y pouvait rien, c'était ainsi. La vie était injuste et dans chaque conflit, il y avait des victimes collatérales. Myriam referma son carnet. Elle le rangea dans la boîte, posa la clé de Laura par-dessus, contre la paroi en acajou, à côté des créoles en or de Lorraine, de la croix argentée que son père lui avait offerte pour sa confirmation, et de la plaque d'un collier de chien portant l'inscription « Dixon ».